France Inter, le 18-20.
Des patients qui passent des heures, voire des jours et des nuits sur des brancards aux urgences, des malades qui décèdent avant d'avoir pu voir un médecin, des personnels qui s'arrachent les cheveux pour trouver un lit disponible et qui craquent faute de moyens pour faire face aux besoins des patients. Il ne se passe malheureusement plus une semaine sans que de tels cris d'alarme ne soient lancés par des médecins, des infirmières, des aides-soignants à bout de force. Les appels et les SOS se multiplient dans le monde hospitalier et le pire, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que le système ne fonctionne plus, à commencer par la ministre de la Santé elle-même. Alors comment en est-on arrivé là? Pourquoi un tel malaise à l'hôpital? Et que faire pour y remédier, sachant que le gouvernement prévoit pour cette année encore de nouvelles économies? On en parle ce soir au téléphone sonne avec nos invités, docteur Anne Gervais, hépatologue à l'hôpital Bichat à Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente de la commission médicale d'établissement de la PHP, signataire en janvier dernier d'un appel lancé avec les docteurs André Grimaldi et Jean-Paul Vernant, c'est bien ça?
C'est ça.
Appel signé depuis par un millier de médecins et de cadres de santé. Avec nous également dans ce studio, Pascal Muller, bonsoir, attaché d'administration à la PHP.
Bonsoir.
Représentante Force ouvrière.
Tout à fait.
En direct et en duplex de Nantes avec nous, docteur Rachel Baucher, psychiatre, chef de service au CHU de Nantes, présidente de l'intersyndicale des praticiens hospitaliers. Bonsoir à vous, madame Baucher.
Bonsoir.
Et toujours avec nous dans ce studio, le psychanalyste Roland Gori, professeur émérite de psychopathologie clinique à l'université d'Aix-Marseille. Pour les interpeller ou tout simplement pour témoigner, le numéro n'a pas changé, le 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel qui nous vient de Montbéliard, celui de Nathalie Depoire. Elle est représentante de la Coordination Nationale Infirmière. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous avez souhaité nous appeler pour quelle raison, Nathalie Depoire?
Ben, écoutez, je suis présidente donc de la Coordination Nationale Infirmière. Parler de ce problème de l'hôpital, c'est vous dire les économies et les demandes d'économies qu'on subit depuis des années, qui contraignent de plus en plus les budgets. Il faut savoir que les dépenses de santé, elles augmentent environ 4% par an, que les budgets hospitaliers de la moitié, et que 70% des dépenses en personnel, des 70% pardon des dépenses des hôpitaux, c'est le personnel. Donc il y a plus de marge de manœuvre. On est à flux tendu en permanence. Les maladies, les congés maternité sont pas tous remplacés. On rappelle le personnel jusqu'à l'épuisement. On a des rappels sur les repos, sur les congés. Normalement, c'est un week-end sur deux pour les soignants. C'est 3, 4, 5 d'affilée les projets familiaux qui sont changés du jour au lendemain. Et quand vraiment il y a personne pour revenir, on demande. Allez, la personne qui vient travailler, on change de service. C'est-à-dire que les personnels, ils ont le sentiment d'être des pions sur un échiquier. Il y a quelqu'un à remplacer, on va mettre tout le monde au minimum. Par exemple, vous travaillez en chirurgie, même si ça fait depuis 10 ans que vous êtes en chirurgie. Du jour au lendemain, on va vous demander, par exemple, d'aller travailler en oncologie, de prendre en charge des personnes qui, du coup, ont des traitements lourds, des chimiothérapies, des patients qui vont poser des questions. Et là, l'infirmière se retrouve dans l'incapacité de répondre. Et cette infirmière, ben, on la retrouve en larmes dans nos bureaux de permanence syndicale qui nous dit « mais je suis nulle, je n'arrive pas, je sais plus travailler ». Alors que, bien sûr que si, elle sait travailler. Et si on l'avait accompagnée à un changement de service en reprenant un petit temps d'adaptation de formation sur les protocoles, elle aurait répondu parfaitement. Donc c'est juste inadmissible, c'est des soignants qu'on est en train de détruire. On a un flux, effectivement, sur l'hôpital qui est en train de déborder. On cherche des lits. On a de plus en plus de personnes âgées qui arrivent à l'entrée de l'hôpital. On est dans le baby-boom, conséquence du baby-boom de l'après-guerre. On a des personnes âgées avec des pathologies de plus en plus lourdes, il faut répondre. On n'a pas de lit, donc on les hospitalise dans d'autres lits. Par exemple, une personne qui relèverait d'une hospitalisation cardiologie, pneumologie, on va la mettre dans un lit de chirurgie.
Nathalie Depoire, est-ce que ça a des conséquences en matière de santé pour les patients?
Ben, clairement, là, quand on met quelqu'un dans le mauvais lit, c'est difficile. Il faut appeler le spécialiste de dont il dépend. On a du mal à avoir, parce qu'ils sont déjà très occupés dans leur service, les médecins spécialistes. Les personnels ne sont pas forcément formés. Il n'y a pas le matériel, il n'y a pas ce qu'il faut. Donc, on est dans une perte de sens par rapport à notre travail. Et quand on manque d'effectifs, ça veut dire aussi, par exemple, pour vous donner un exemple concret, la nuit, on va mettre une infirmière, une aide-soignante dans les services. On voit forcément, pour plus de 30 patients, voir se multiplier le recours à mettre des protections plutôt que d'accompagner les gens aux toilettes. On va avoir de jour la difficulté, les toilettes ne sont pas finies, qu'il faut déjà être dans les aides au repas et il n'y a pas assez non plus de soignants pour être disponibles pour les aides au repas. Donc bien sûr que ça a des conséquences sur la qualité des soins.
Merci beaucoup Nathalie Depoir pour cette entrée en matière qui dresse à mon avis un tableau déjà assez édifiant de la situation. Merci beaucoup. Docteur Anne Gervais, vous qui êtes à Paris, à la PHP, vous vous reconnaissez dans ce que vous venez d'entendre ?
Oui, on se reconnaît. Alors, on se reconnaît en même temps, c'est vrai qu'on se bat pour que cette perte de sens ne nous atteigne pas. Finalement, on essaye absolument de maintenir une qualité dans le travail. Je crois que malgré tout, on y arrive. Mais là, maintenant, ça n'est plus possible. J'entends tout ce qui est dit. On a une intensification du travail. On a une espèce de taylorisation du travail. On prend les gens un petit peu, peut-être pas pour des pions, mais quand même, une infirmière de chirurgie qui monte en médecine ou vice-versa. On nie le travail d'équipe en faisant ça. Et on le fait, en plus, il y a un management qui est fait de façon très ancienne, c'est à l'ancienne, c'est du management pour avoir une entreprise commerciale la plus rentable possible, et on utilise un management tayloriste qui serait de la fin du 19e siècle. De nos jours, on travaille en équipe et on sait, même dans les plus grandes entreprises commerciales, on sait que c'est ça qui donne la force. Et l'hôpital, plus qu'ailleurs, c'est du travail d'équipe. Il faut impérativement revenir vers les équipes.
Vers les équipes et vers le savoir-faire des personnels. Pascal Muller, vous qui êtes aussi à la PHP, vous partagez ce point de vue et vous dénoncez ce mode de management, vous aussi ?
Et on est même plus encore sévère parce que on a le recul, on a vécu une réorganisation très brutale des soins et du temps de travail à la PHP et les personnels sont très très mal.
La réforme de Martin Hirsch,
la réforme de Martin Hirsch qui est de septembre mise en place en septembre 2016. Et aujourd'hui, le constat qu'on a mis en forme sous forme d'un livre noir qu'on a mis à disposition sur les réseaux sociaux, c'est catastrophique. Vous avez un déclassement des professionnels de santé, ils ont perdu leur repère, ils se considèrent maltraités et ils ne voient plus la possibilité, si vous voulez, de se projeter parce qu'ils n'ont plus de temps personnel. On est uniquement géré que à la méthode thatchérienne, c'est-à-dire le résultat financier, l'épicerie. Et tout est bon pour caler finalement. On part de nos insuffisances de crédit pour dérouler derrière tout ce qu'on peut faire en palliatif.
On marche sur la tête. C'est le cas à Paris, on a entendu que c'était le cas à Montbéliard, on va aller à l'autre bout de la France maintenant, on va aller à Nantes retrouver Dr Rachel Baucher. Même situation chez vous, de votre côté
Écoutez, c'est inévitable. Le constat qui a été fait est juste. Il y a un climat social extrêmement tendu. Il y a une situation financière très difficile. Mais je crois qu'il faut le dire pourquoi. Même, on a eu 6 ou 7 réformes dans les 20 dernières années. Tout le monde vient avec sa réforme. C'est-à-dire fait des constats comme l'a fait la ministre actuelle qui sont justes. Mais on n'a pas besoin de constats ou de discours. On a besoin d'actes. Or, qu'est-ce qui se passe? La santé a considérablement changé, les métiers ont changé, et au niveau du système de santé, tout repose beaucoup quand même sur le cœur battant qu'est l'hôpital public. Je dirais de façon lapidaire, l'hôpital public, c'est le premier recours et dernier secours. Tout arrive à l'hôpital. Or, quand on fait une réforme, il faut envisager une réforme globale du système de santé. C'est pas, alors qu'on intervient seulement sur l'hôpital et l'événement est trop petit. C'est-à-dire que l'hôpital se charge de tout et on n'augmente pas, effectivement, les financements et l'organisation. Les métiers ont changé comme le système de santé a changé. Prends un exemple. Je veux dire, avant, on était sur des maladies aiguës et on était davantage sur le curatif, ce qu'on appelle le cure. Là, on est beaucoup plus sur l'accompagnement des maladies au long cours, et les soignants, que ce soit des médecins ou des infirmiers, sont dans une relation très importante aux patients qui entraîne une dimension aussi personnelle, affective, avec un environnement donné. Et ce que demandent les soignants, aussi bien médecins qu'infirmiers, c'est du temps pour mettre en œuvre leurs compétences. Et c'est là où, en fait, il y a une perte de sens. Il y a une perte de reconnaissance de ces compétences. Que le témoignage qui a été fait, effectivement, quand on met une infirmière d'un service à l'autre, pour l'instant, pour les médecins, c'est pas le cas, mais bon, on fait attention.
On est à l'abri de rien.
On fait attention dans le cadre des pôles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne prend pas en compte l'évolution d'un système qui, aujourd'hui, finalement, pèse trop lourd sur l'hôpital public. Donc, si on fait une réforme, il faut une réforme globale.
Qui aille
une réforme globale.
au-delà de l'hôpital.
Pas une réforme seulement de l'hôpital public. Et quand on, disons, là aujourd'hui, les dernières réformes, notamment financières, n'étaient que des réformes qui avaient une base comptable, ce qui a été dit, avec une tarification à l'activité qui, on sait très bien, ce n'est qu'un aspirateur à l'activité. Et ça entraîne quoi ? Une course effrénée à une activité plus importante pour obtenir les mêmes budgets.
Merci.
Le constat, vous le connaissez au niveau
des
financements. Voilà, en 2017, je voulais juste dire, il y a un déficit qui est le triple qu'en 2016. Donc ça ne peut pas marcher, bien sûr.
Et puis ça a été dit au début, les dépenses vont encore augmenter, mais les recettes, elles augmenteront de la moitié de ce dont vont augmenter les dépenses. Donc c'est mal parti. un petit mot, parce que c'est mal. Sur le fait qu'il faut une réforme qui aille au-delà de l'hôpital, Agnès Buzyn, là-dessus, docteur Anne Gervais, elle a été très claire cette semaine, elle l'a envisagé justement.
C'est absolument vrai, on ne peut pas imaginer que l'hôpital serve de recours de proximité de ville. Quand il n'y a plus de ville, c'est l'hôpital qui le fait. Quand il n'y a plus de médecins qui suivent les maladies chroniques à l'extérieur, c'est l'hôpital qui le fait. L'hôpital était fait pour traiter les maladies aiguës graves, il traite les maladies chroniques, il traite tout maintenant. En effet, on est passé de 10 à 20 millions de passages aux urgences. On a maintenant 20 millions de Français qui ont une maladie chronique. On fait tout ça, sauf que c'est vrai qu'il faut s'occuper de la ville. Il faut réussir à réguler la ville comme on le fait à l'hôpital pour imposer finalement qu'il y ait un service public de ville, de proximité, qui aiderait l'hôpital. Peut-être c'est à l'hôpital de le faire, mais auquel cas, il faut être financé pour. Et il y a une chose à faire immédiatement. Et je pense que Agnès Buzyn l'a bien dit, ça n'est plus possible de continuer avec de la T2A pour tout le monde à l'hôpital.
Alors on s'arrête et on explique ce que c'est la T2A. Qui veut nous expliquer Pascal Muller. La T2A, ça veut dire tarification à l'activité. C'est un système qui existe depuis 2005, c'est bien ça ?
Oui. Qui est couplé avec la restructuration des hôpitaux en pôles. Alors ces pôles, au démarrage, c'était une structuration cohérente de l'activité médicale à l'intérieur pour créer des synergies, pour créer un partage de l'encadrement, etc. Bref, et derrière tout ça, vous aviez de la facturation sur la pathologie. Le groupe homogène de malades était la référence, à ceci près qu'elle est très complexe, cette facturation, parce que on ne peut facturer que la pathologie sur laquelle on a mis le plus de moyens médicaux. Et après, comment décliner les polypathologies, qui sont d'ailleurs très bien décrites par le docteur Gervais, et ça rentre pas dans le masque de la T2A. Ne rentre pas dans la T2A non plus. Tout ce qui fait le fonctionnement autour du soin, c'est-à-dire tout ce qui est assistante sociale, suivi, tout ce qui est du temps, autre que le temps paramédical et médical.
Donc, faut sortir de ce système.
Totalement, parce que si vous voulez, il n'a pas. Là où on a une déqualification du travail de l'hôpital, c'est que ce tarif, il est systématiquement chaque année dégressif. Les tarifs baissent.
Et ça va encore être le cas cette année.
Voilà, et ça nous fait courir après l'activité de manière assez démente.
On repart au standard de France Inter. Alain nous appelle de Haute-Savoie. Bonsoir, Alain.
Bonsoir.
Alors vous n'êtes pas un membre du personnel médical, mais vous êtes nous appelez pour une expérience côté patient, c'est ça ?
Voilà, exactement. Ça concerne mon père, effectivement, qui a été effectivement envoyé aux urgences à l'hôpital, au centre hospitalier de Lille par son médecin. Mon père avait un cancer du pancréas et nous avons vécu une expérience traumatisante avec ma mère à l'hôpital. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivé après avoir fait 800 kilomètres parce que je voulais absolument voir mon père, c'était essentiel. Je suis arrivé fatigué. J'ai trouvé mon père dans un couloir. Cet homme amaigri, décharné, qui avait soif, qui me disait « j'ai soif ». Je cherchais de la boisson pour lui. Je demandais « pourquoi il est dans le couloir, cet homme ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait là ?» Et on m'a dit, on a appelé les brancardiers. J'ai dit « vous devez rappeler les brancardiers pour qu'il soit dans une chambre ». Donc il a été mis dans une chambre sale, dégoûtante, avec des haricots encore pleins de déchets. C'était vraiment dégoûtant. Je suis horrifié. Deux jours plus tard, ce pauvre homme, il est mort. Et nous l'avons retrouvé mort dans sa chambre, sur un siège, débranché. Il n'y avait plus de perfusion. Devant lui, un petit Suisse sur une table, alors qu'il ne pouvait plus rien avaler. Il rendait sans arrêt. C'est inadmissible. Il a été débranché. Il y a eu une brutalité extrême de la part du personnel. Nous avons été mis dehors de cette chambre avec une grande brutalité. C'est inadmissible. Inadmissible.
Merci,
nous
Alain.
Nous sommes tombés sur un interne ignorant qui était incapable de nous dire ce qui s'était passé. Nous n'avons jamais su à quelle heure il était mort, à quelle heure, jamais. J'ai écrit à la ministre Agnès Buzyn qui m'a renvoyé vers l'agence de la santé. Je n'ai aucune réponse à ce jour. Je ne peux pas faire mon deuil, c'est impossible.
Merci.
La chef de service de gériatrie de l'hôpital de Lille a été d'une froideur, d'une inhumanité extrême. Je suis particulièrement choquée. Et j'ai dû soutenir ma mère pour sortir de cet hôpital. Je suis vraiment très choquée. Et je veux des réponses. Je les veux et je les aurai.
Merci Alain pour ce témoignage qui en dit long sur une forme de déshumanisation à laquelle on arrive dans certaines structures, docteur Anne Gervais.
Oui, quand l'hôpital oublie qu'il travaille pour finalement soigner les malades et non pour des business plans, ça devient un problème. Alors, heureusement, je crois, j'espère encore, je le vois tous les jours quand même dans mon service, on n'en est pas là, c'est insupportable ce que décrit votre auditeur.
Alain.
Mais on a l'impression de ramer toujours plus pour y garder une humanité et c'est bien ça qui crée de la souffrance au quotidien pour les soignants.
Roland Gori.
Oui, le témoignage très émouvant et très, très douloureux de votre auditeur montre qu'il vient déposer ici ce qu'il n'a pas pu, si vous voulez, traiter au sein de l'hôpital. Alors, pour quelle raison, ça je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été certes, cette déshumanisation a été favorisée par ce qui a été évoqué tout à l'heure par Anne Gervais du côté du taylorisme. Souvenez-vous ce que disait Taylor. Hein. Taylor disait, dans le passé, l'homme était au centre de tout, désormais ce sera le système. Sauf que le système aujourd'hui, vous l'avez dit également, le système aujourd'hui c'est une logique purement managériale où on accrédite la thèse selon laquelle l'hôpital est une entreprise, et effectivement les soignants sont dans une souffrance. Ils font un travail admirable. Ils se disent traités comme des robots dans une usine à produire du soin. Parce qu'effectivement, on voit bien, vous l'avez évoqué, la tarification de l'activité et la T2A, ce sont les actes techniques qui sont mis en avant. Ce sont les actes techniques qui comptent parce qu'ils sont comptabilisés. Mais tout ce qui est pris en charge justement de la souffrance, de la tragédie, du drame de l'existence et du patient et de la famille est relégué, si vous voulez, à l'arrière-fond de la boutique. Donc je crois que le problème majeur, il est là. Nous avons une corruption, une colonisation, si vous voulez, par une culture de financiarisation, d'activité de soins, c'est-à-dire de prise en charge de la vulnérabilité humaine.
Et on en arrive à des situations extrêmes comme celle vécue par Alain pour son père. Un nouvel appel, il nous vient de Grenoble cette fois-ci, c'est Bertrand qui est en ligne. Bertrand qui est un professionnel de l'hôpital. Bonsoir.
Bonsoir, oui, tout à fait. Je vous remercie. Moi, je suis absolument anesthésiste à l'hôpital, ça fait 20 ans. Ça fait quelques années qu'on met bout à bout nos efforts, notre motivation pour essayer de ne pas faire de conneries, tout simplement. Quoi.
Vous êtes découragé?
Voilà. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai fait ça par vocation et voilà, on n'en peut plus. On fait des briques et de broc, on essaye, on fait des nouveaux trucs. Hein. L'anesthésie sont morphiniques, mais il faut beaucoup de capteurs pour contrôler le mal. Et bien, on n'en a pas, alors on fait au pif, quoi. Parfois au pif. On fait des exercices, moi, attendez, je termine.
Allez-y.
La fois, j'ai travaillé 15 heures, on a fait un exercice, on est resté. La direction nous a reçus avec des sandwichs périmés en fin d'anesthésie. On est parti ensuite. On est parti, parce qu'on a plus les fait, on s'est fait notre débriefing entre nous, quoi. Vous imaginez?
Bertrand, c'est pas du tout que je veuille vous couper, Bertrand. Bertrand, est-ce que vous pourriez bouger un tout petit peu parce qu'on vous entend très mal? Je pense qu'on a un problème pour vous recevoir avec le portable. Est-ce que vous pourriez vous déplacer de quelques mètres? Peut-être que ça améliorerait la communication.
Oui, je sais. Voilà. Je vais sortir. Oui, je vous disais, moi, je travaille en maternité. Je prends mes gardes en maternité. Quand il n'y a pas de travail, je dors par terre, madame. Par terre. J'ai 53 ans. Il y a vos invités, là, votre toubib, là, qui prend des gardes. Probablement, elle dort par terre pendant ses gardes. Non. Pourquoi? Et dernière chose, juste là, au sujet des médias, pourquoi les médias, ils n'invitent pas des infirmiers, des aides-soignants, des ASH, des gens qui lavent par terre, un petit peu pour parler de ça? Il n'y a que des administrateurs invités.
Non,
il n'y a pas que des médecins. Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'administrateurs. Alors, c'est plus parleurs, ils parlent bien. Des gens qui ont de l'éducation. Sauf que les ASH, les aides-soignants, les infirmiers étudient, ils ont aussi des choses à dire.
Mais bien sûr.
Ils en ont marre.
Bertrand.
Et je suis gentil.
On est tout à fait d'accord. Et puis, d'ailleurs, c'est Nathalie Depoire, une représentante de la coordination infirmière, qui a pris la parole la première pour débuter cette émission. C'est pour dire qu'on n'oublie pas une partie du personnel. J'aimerais avoir peut-être une réaction du côté de Nantes, du docteur Baucher.
Mais écoutez, moi je dirais que l'hôpital retrouvera son attractivité si on revalorise l'ensemble des métiers. Justement, je suis d'accord avec mon collègue, le collègue médecin qui vient de dire, c'est l'ensemble de l'équipe pluriprofessionnelle qu'il faut revaloriser. C'est non seulement les médecins, c'est les infirmiers, les aides-soignants, les cadres infirmiers. Et là, par rapport... Alors, c'est vrai que le système souffre de deux choses. C'est qu'il est trop personne dépendant. C'est-à-dire des gens qui sont très très engagés ou un directeur qui sait peut-être mieux, qui arrive mieux à gérer son budget, ça fonctionne mieux. C'est-à-dire tout le monde ne dort pas par terre comme le médecin anesthésiste vient de le dire. Mais dans d'autres situations, c'est très compliqué. Il y a eu des histoires avec des internes assez complexes sur lesquelles on est intervenu parce qu'ils n'avaient pas de chambre de garde pour dormir. Donc en fait, le système, c'est un peu un système D. Comme il n'y a pas de réforme globale, chacun dans son hôpital fait avec les personnes qu'il connaît, avec les engagements, et je crois qu'on assiste à beaucoup de désillusions, ce qu'on entend, et de déceptions. Et ça ne devrait pas se faire, parce qu'aujourd'hui, nous, les soignants, on doit écouter la souffrance des patients, et ce qu'on voit, c'est qu'on a, en face de la souffrance des patients, il y a la souffrance des soignants. Comment on peut bien soigner si on se sent aussi malmené? C'est la question que je pose aussi à la ministre, c'est-à-dire, je crois que dans le contexte, au-delà des constats, il faut faire des actes pour dépasser un peu ces constats. Les situations sont très hétérogènes. C'est pour ça qu'on peut pas dire, je crois que, on voit dans toute la France, c'est très différent, mais il y a aujourd'hui des vocations très importantes. Il y a des engagements, et toujours on trouve, disons, on voit, c'est quand même des métiers qui sont très choisis. Il faut pas désespérer les soignants. Pour qu'ils soignent mieux les patients qui viennent.
Merci, docteur Baucher. Pascal Muller, de la PHU, vous souhaitiez réagir?
Oui, tout à fait, face à notre interlocuteur. Je voulais vous dire que, bon, peut-être on a pris l'habitude de s'exprimer, mais qu'on est véritablement de son côté. Moi, je représente un syndicat ouvrier, et on est absolument scandalisé de ce qu'on peut voir. L'hôpital, c'est aujourd'hui le grand écart, entre effectivement des conditions de travail absolument invraisemblables, avec un recul, mais régulier, de la reconnaissance des professionnels, de la maltraitance. Il n'y a pas seulement que nos malades qu'on maltraite, on maltraite avant toute chose déjà les personnels qui se sentent eux-mêmes privés des moyens de prendre en charge les patients et qui donc sont très malheureux parce qu'ils maltraitent leurs patients par manque de temps, par manque de moyens, qu'à la PHP on vit les mêmes choses que vous dans votre établissement hospitalier et que finalement il est grand temps de mettre un point d'arrêt à ça puisque vous regardez aujourd'hui les résultats financiers, quels que soient les efforts qu'on ait fait, les résultats financiers continuent à chuter tout simplement parce que il y a une volonté politique d'assécher les finances d'un hôpital public qui est pourtant l'articulation essentielle de la médecine en France. Tant qu'on n'a pas pu trouver le moyen de constituer des réseaux de villes qui fonctionneraient en partenariat avec les hôpitaux des urgences, on en est toujours au même point. Et moi, ça fait plus de 20 ans que je nous vois creuser dans ces problèmes sans qu'on ait effectivement trouvé de solution aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui à l'hôpital public? 1,6 milliard d'économies à réaliser en 2018, c'est ça?
C'est impossible. C'est impossible. Il va falloir fermer des structures. En fait, c'est ça. On nous demande des économies qui se traduisent par des fermetures. À la PHP, on va fermer des établissements. Là, on sacrifie les EHPAD. On sacrifie les personnes âgées. C'est pas rentable. Voilà, il y a ça. Et on ne peut plus tenir. Tout craque. Tout craque. Vous, vos conditions de travail craquent. Vous perdez complètement vos motivations parce qu'il n'y a plus de reconnaissance. Il n'y a plus de possibilité de prendre soin de vos patients. Nous, on voit plus. Alors, on a effectivement, comme vous le disiez très bien, des administrateurs, des gens qui parlent. On a le relais de spécialistes au niveau de la direction des hôpitaux, des ARS. Mais rien, rien ne débouche sur une évolution ou une solution. Et puis, ce que je voudrais aussi dire, et c'est vrai que je suis venue là pour le dénoncer, subitement, vous avez la majeure partie des hôpitaux publics qui dégringolent en situation de déficit énorme, monstrueuse. Et en fait, c'est lié non pas à des dérapages de fonctionnement, puisqu'aujourd'hui, on compte même les gants de toilette à usage unique, c'est vraiment déprimant, mais simplement, on oblige aujourd'hui les hôpitaux à fonctionner en termes de comptabilité comme une entreprise privée. On paye des commissaires aux comptes, on provisionne des risques, alors que on a par ailleurs l'interdiction de faire des bénéfices, l'argent qu'on aurait gagné une année, on pourrait le thésauriser. C'est pas possible. Donc on est dans deux paradigmes inconciliables et à force de faire le grand écart, eh ben l'hôpital public va mourir. Voilà. Et c'est vraiment un cri d'alerte.
Docteur Anne Gervais.
Alors justement, ça pour moi, c'est un vrai problème qu'on donne cette image, mais c'est ce qu'on ressent. Et effectivement, que ce soit chez les médecins, chez les paramédicaux, tout le monde ressent ça. En fait, on se demande si on ne favorise pas finalement un service privé, si ça serait pas plus simple que ce soit privé. Or, je le redis, on travaille superbement, on s'occupe de tout le monde tout le temps, 24 heures sur 24, quelles que soient les pathologies. Je dois dire qu'il n'y a que l'hôpital public qui le fait, il faut le redire et on le fait bien. Donc il faut nous donner les moyens. C'est pas que vers Buzyn qu'il faut se tourner, c'est clairement, oui, aussi vers Bercy. En 10 ans, on a fait 7 milliards d'économies, il faut le rappeler. On n'est pas les seuls dans le monde à avoir des problèmes, dans des services, dans des systèmes bien financés, de façon inéquitable comme aux États-Unis, la Mayo Clinic met en avant le fait qu'elle a 50% de risque de burn-out, comme ailleurs, et elle met à fond des moyens pour éviter que ça survienne. Donc, on sait comment faire, il faut correctement financer, et il faut revenir vers les équipes, vers le terrain.
Et écoutez les professionnels. Alors on va repartir au standard de France Inter parce que Bertrand nous reprochait tout à l'heure de ne pas donner la parole à tous les corps de métier. Eh bien si, on va avoir un kiné ou une kiné en ligne dans un instant.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Stéphanie est kinésithérapeute dans le Vaucluse, c'est bien ça?
Oui, bonjour.
Bonsoir à vous.
Bonjour, moi je travaille à l'hôpital public depuis des années, j'ai un bon salaire, j'ai beaucoup de congés, c'est plutôt sympa au niveau des horaires, mais j'en peux plus. Je vais démissionner, j'ai des migraines en permanence, je ne supporte plus d'aller au travail parce qu'on est des pions, on nous manage n'importe comment. On était une équipe sympa, on s'entendait bien, et bien ils ont décidé que... Vu que maintenant on est dirigé par les pôles, eh bien, on allait devoir changer notre organisation de travail. C'est-à-dire que moi, je me retrouve seule pour 40 patients. Ma collègue, elle envoie 2 à 10 par jour, mais ça paraît normal à tout le monde. Je suis incapable de faire mon travail. 40 patients à gérer dans une journée, c'est beaucoup trop. Et là, j'ai pris la décision de démissionner parce que sinon, je vais y laisser ma peau, quoi. À l'hôpital.
Et vous laissez l'hôpital public?
Oui. Mais oui, c'est plus possible. Et pourtant, je gagne 2200 euros. J'ai 9 semaines de congé. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis dans une petite ville, j'ai pas beaucoup de frais, je travaille à 3 minutes de l'hôpital. Je suis à 3 minutes de chez moi. Mais pourtant, c'est plus possible.
Merci Stéphanie pour ce témoignage. Je précise que vous n'êtes pas la seule. Hein. On a beaucoup de messages qui nous arrivent aussi sur franceinter.fr qui vont dans le même sens que vous ce soir. Beaucoup de gens qui dénoncent le mode de management de l'hôpital public. Roland Gory, on en revient toujours à ça?
Oui, mais si vous voulez, c'est un peu le cas de tous les métiers qui sont impactés par une logique qui leur demande, si vous voulez, d'incorporer les normes de gestion, les normes tarifaires, etc., et d'oublier ce pourquoi ils sont là, soigner, éduquer, c'est ça le problème. Ce qui est quand même absolument étonnant, c'est que nous connaissons dans d'autres pays, j'ai cité tout à l'heure la surmortalité de 30 000 décès en 2015 pour les hôpitaux anglais. Mais par exemple, il y a un rapport qui a été fait, dont le Monde en parlait en 2013 par Robert Francis, qui fait état, un rapport de 3 000 pages avec 300 recommandations, disant que dans certains hôpitaux, la préoccupation de gestion conduit à ce qu'on laisse les patients mourir, comme l'a dit votre auditeur, avec des linges souillés, soit on a des patients qui ont bu de l'eau, si vous voulez, de vases dans lesquels il y avait des fleurs, ou qui n'ont pas pu se nourrir. Il y a eu un rapport d'un avocat, il s'appelle Maître Robert Francis, en Angleterre. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on se cale là-dessus, il faut bien voir que c'est une manière de traiter l'humain qui reflète justement les valeurs de notre société. Soigner, éduquer, la culture, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'aller sur le marché et de faire du fric. Donc, c'est cette idéologie-là qui est extrêmement dangereuse et qui, à mon avis, maltraite tous les humains. Le danger, c'est d'avoir ensuite une espèce de concurrence dans la douleur, on l'a entendu de votre auditeur. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on souffre, je dirais, de ce type de management, on peut être amené, on l'a vu dans un documentaire récemment, dans Le Ventre de l'Hôpital, de Jérôme Lemaire, si vous voulez, sur l'hôpital Saint-Louis, ça peut conduire à des conflits interpersonnels et oublier que justement c'est le système qui fait souffrir et penser que d'autres sont moins malheureux que nous.
Un nouveau témoignage, cette fois, qui nous vient de la région Rhône-Alpes. Catherine est en ligne. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Vous êtes infirmière à l'hôpital ?
Oui, voilà, je suis infirmière à l'hôpital public depuis presque une dizaine d'années maintenant. Et je voulais témoigner de la dégradation des conditions de travail. J'aimerais que le grand public sache comment on travaille, dans quelles conditions on est traité. Là, j'entendais les patients qui se plaignaient. On peut parler du sous-effectif. Je connais une EHPAD où par sous-effectif, il n'y a que 2 minutes par résident pour les faire manger, donc des personnes âgées, donc 2 minutes pour manger. Moi, je suis à plus de 200 heures supplémentaires non payées, non rémunérées. J'ai des collègues qui sont à 400 heures, ça veut dire à peu près 3-4 mois de travail. Le droit du travail n'est pas respecté. Moi, je fais régulièrement des semaines de 70 heures et je ne suis pas un cas isolé. Le repos légal entre le service du soir et du matin, c'est pas vraiment toujours respecté. Les journées de plus de 12 heures, comme Bertrand parlait tout à l'heure, c'est fréquent. Dans les blocs opératoires, on arrive parfois à travailler plus de 20 heures d'affilée. Les médecins, c'est encore pire. Ils font des gardes de 24 heures. Parfois, ils travaillent encore plus. Mais je me dis, est-ce que le grand public le sait? On parle de consentement libre et éclairé. Je me demande, est-ce que vous monteriez dans un avion dont le pilote n'a pas dormi depuis plus de 20 heures? La réponse est non. Eh ben, à l'hôpital, vous vous faites soigner, opérer. Parfois, notamment quand il y a des urgences en fin de nuit, par du personnel qui n'a pas dormi depuis plus de 20 heures. Donc je voulais que ça se sache, qu'on n'en parle pas, mais...
De plus en plus, Catherine, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une multiplication des mouvements, hein, des lettres ouvertes, des pétitions, des appels, des manifestations. Et oui, grâce à ça, effectivement, ça remonte. Mais enfin, ça fait un petit moment quand même qu'on dit que ça va mal à l'hôpital. Je voudrais qu'on prenne encore un nouvel appel, cette fois, c'est Eric, parce que lui, c'est un ancien acteur de la santé. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir.
Dites-nous tout.
Écoutez, rien d'extraordinaire. Je voulais simplement témoigner parce qu'aujourd'hui, j'ai été infirmier, cadre de santé, formateur en IFSI. Aujourd'hui, je ne fais plus que de la formation professionnelle un peu partout en France. Et tous les témoignages qu'on a pu entendre jusqu'à présent, moi, je peux en témoigner aussi parce que j'entends chaque jour, en fait, le même son de cloche. C'est-à-dire des gens qui s'épuisent, des gens qui se démotivent, parfois des très jeunes. Et ça me gêne profondément. Des gens qui sont très jeunes dans la profession, mais qui sont déjà soit épuisés, soit totalement démotivés. Vous avez parlé du management, en effet, un management qui est de plus en plus, je crois, déshumanisé, alors même que les soignants se doivent d'être des humains, se doivent en effet d'écouter la souffrance, se doivent de faire face à la mort, à la maladie, à la souffrance, et alors même qu'on ne les écoute pas éventuellement dans leurs difficultés, un manque de reconnaissance, je crois, majeur, et pourtant des professionnels qui essayent de faire face à tout ça. Voilà, je suis complètement empathique à l'égard de ces soignants auxquels j'appartenais il n'y a pas très très longtemps, et en effet, on parlait de...
Merci, pardon. Eric, je vais vous couper parce qu'il est déjà 19h56 et je voudrais que nos invités puissent vous répondre et puis peut-être essayer de... parce que là, sur le diagnostic et la constatation, je crois que tout le monde est d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Docteur Rachel Bauchet, en direct de Nantes, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on passe à l'action?
Qu'on est, disons, c'est pour essayer de mettre une petite note optimiste sur la fin de l'émission, le système est à bout de souffle, même les politiques l'ont reconnu, nous sommes au début d'un nouveau cycle. On prend en acte. L'hôpital ne peut pas tout faire. L'hôpital, disons, doit forcément être ouvert sur la ville, il doit y avoir des partenariats, il doit y avoir un décloisonnement public-privé, il doit y avoir des modifications du financement, des modifications de la gouvernance. Si je dis ça, c'est qu'on peut retrouver du sens à l'hôpital, on peut retrouver du soin. Il faut bien différencier ce que je disais au début entre le cure et le care, c'est-à-dire on est dans une transition épidémiologique, on ne soigne pas que des malades aiguës, mais des malades chroniques au long terme. Il faut développer l'ambulatoire en articulation avec l'hôpital. Il faut assurer...
Il faut désengorger l'hôpital et en même temps lui donner des moyens, c'est ça ?
Lui donner des moyens, et il faut que l'hôpital retrouve ses valeurs nobles, la richesse de ses missions. Il ne peut plus continuer à faire le grand écart entre les urgences, les maladies aiguës, l'innovation, les progrès, le vieillissement, la recherche, l'enseignement. Il faut absolument non seulement donner les moyens à l'hôpital, mais il faut décloisonner le système pour que l'hôpital trouve une place, mais soit pas toute la place. Et je dirais en clair, il ne faut pas que l'hôpital soit la voiture balai du système de santé.
Merci beaucoup, docteur Rachel Bauchet. On va faire un dernier tour de table en guise de conclusion. Pascal Muller.
Oui, moi ce que je souhaite rappeler, c'est que cet hôpital public, il a amené aujourd'hui la médecine à son degré d'excellence. Rien ne remplacera cet hôpital public. Et donc, il faut rendre cet outil aux soignants, aux médecins, et il faut sortir de cette hyper-bureaucratie qui finalement nous gaspille des moyens et nous amène à des situations d'échec. On revient aux valeurs premières, je pense qu'on n'a pas besoin d'un vocabulaire de technocrate pour rendre l'hôpital aux médecins, aux soignants.
Docteur Anne Gervais.
On continue à bien travailler et on rame de plus en plus pour, il faut changer le financement en gardant peut-être de la T2A pour le programmer, très bien, passer aux dotations maladies chroniques, parcours ambulatoire, changer le management, favoriser le collectif. Il faut éviter l'individualisation, le contractuel, tout ce qui ramène vers l'individu qu'on mutualise. On n'a plus de service, ça n'est pas possible. Il faut redonner de l'autonomie au terrain. Ceux qui font, savent.
Et comme vous le disiez tout à l'heure, on ne s'adresse pas qu'à Agnès Buzyn, on s'adresse aussi à Bercy, parce que absolument, c'est le nerf de la guerre. Faut de l'argent.
Je crois que c'est un choix politique de donner 300 milliards dans un plan de programmation militaire. Nous, il nous en suffit de deux.
Roland Gori, il y a des choix à faire, c'est des choix de société.
Oui, je crois qu'il faut revaloriser le soin. Il y a de plus en plus de progrès techniques, mais si vous voulez, de moins en moins de possibilités de soins parce que le temps est compté, qu'il y a une pression sur le personnel conduisant à des dépressions, des démissions, des suicides, des burn-out et toutes sortes de maladies. Donc je crois qu'il nous faut prendre en compte le soin puis qui n'est pas comptabilisé. Donc je crois que c'est le point essentiel. Sinon, on sera toujours dans ce déséquilibre entre le progrès technique et puis la capacité d'accompagner la part la plus vulnérable de l'humain.
Voilà, c'est très important. Merci Roland Gori. J'ajoute qu'il y a une de vos collègues, un psychologue en psychiatrie déjà victime de burn-out. Elle s'appelle Elodie. Elle nous a écrit sur franceinter.fr si même les psychologues sont en burn-out. Je ne sais pas où nous allons. C'est la fin des haricots.
Ils sont très maltraités.
Faut me laisser une dernière remarque.
Toute petite, parce qu'il est vraiment l'heure.
Je voudrais juste simplement dire que nous sommes vraiment au regret d'avoir à comptabiliser un nombre de suicides absolument déplorable.
Effectivement. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à toute l'équipe du Téléphone Sonne et merci à nos amis de France Bleu Loire-Océan pour cette liaison à distance.